Chapitre 19. Et comment peux-tu être sûr d'avoir vu une sœur de l'obscurité? Demanda distraitement Verna avant de retremper sa plume dans l'encrier. Elle griffonna ses initiales au bas d'un document. Une autorisation de voyager donnée à une sœur qui désirait aller au sud pour rencontrer une magicienne et parler de plans défensifs. Même en campagne, la paperasse semblait collée au basque de la pauvre Verna. Le palais était détruit, le prophète avait mis les voiles, la véritable dame Abbesse était occupée à le poursuivre, certaines sœurs de la lumière avaient juré allégeance au gardien, lui donnant une bonne chance de dominer un jour le monde des vivants, et un grand nombre de sœurs, de la lumière comme de l'obscurité, étaient tombées sous la coupe de l'empereur Jagang. Comme si ça ne suffisait pas, la barrière qui séparait l'ancien monde du nouveau avait disparu, et le seul homme capable de vaincre l'ordre impérial, Richard Rall, traînait on ne savait où pour y faire on ne savait quoi. Et malgré tout ça, la paperasse, tel un monstre immortel, continuait de harceler la pauvre Verna. Certaines de ses assistantes filtraient le travail, mais, malgré son aversion pour la bureaucratie, la dame Abbesse intérimaire tenait à garder un œil sur les choses. Un sens du devoir qui l'honorait. Et un moyen, sans doute, de moins penser à tout ce qui aurait pu être et n'était plus. Après tout, continua-t-elle, ça pouvait être une sœur de la lumière. Jagang exploite toutes les sœurs, quelle que soit leur allégeance. Tu ne peux pas être certaine de ce que tu as vu. Pendant tout l'hiver, Jagang a envoyé des sœurs avec ses éclaireurs. La mort de Sid posa ses poings fermés sur le bureau et se pencha en avant. Dame Abbesse, je vous le garantis, c'était une sœur de l'obscurité. Si tu le dis, Rika, capitula Verna. Pourquoi aurait-elle polémiqué pendant des heures? Au fond, tout ça avait si peu d'importance. Verna passa au document suivant. Une sœur qui demandait à tenir un discours devant des enfants au sujet de la vocation des sœurs de la lumière. Au programme figurait également un sermon sur la position du Créateur face à l'ordre impérial et sur son soutien à la cause du Nouveau Monde. Avec un petit sourire, Verna imagina la fureur de Zed à l'idée qu'une sœur vienne pérorer sur ce sujet au moment où les envahisseurs de l'ancien monde déferlaient sur le nouveau. « Je m'attendais à ce que vous disiez ça, » soupira Rika. Elle retira ses mains du bureau. « Dans ce cas, tu devrais être satisfaite, » marmonna Verna. Pour l'heure, elle lisait un rapport des sœurs de la lumière posté au sud. Le texte parlait des cols dans les montagnes et des méthodes utilisées pour les condamner. « Attendez-moi ici !» grogna Rika avant de sortir en trompe de la tente. « Ne t'inquiète pas, je n'irai nulle part !» soupira Verna en continuant sa lecture. Mais la mort de Sid Blonde était déjà sortie. La dame Abbesse entendit du bruit devant sa tente. À l'évidence, Rika passait un fichu savon à quelqu'un. Cette mort de Sid était incorrigible. C'était sans doute pour ça, et malgré ses défauts, que Verna l'aimait bien. Enfin, si on pouvait s'exprimer ainsi. Depuis la mort de Warren, elle ne mettait plus de cœur à grand-chose. Elle faisait son devoir comme il convenait, mais sans se sentir vraiment concernée. Le désespoir dominait tout. L'homme qu'elle aimait, qu'elle avait épousé, qu'elle tenait pour l'être le plus formidable du monde, cet homme-là n'existait plus, et face à ce vide, plus rien ne comptait. Bien sûr, la dame Abbesse tentait de s'acquitter de sa tâche, de faire face, selon l'expression consacrée, parce que beaucoup de gens dépendaient d'elle. Mais si elle regardait la vérité en face, sa seule raison de travailler jusqu'à l'épuisement était le désir de s'occuper l'esprit. Oui, penser à tout, sauf à Warren, et au jour terrible où il avait quitté ce monde. Bien entendu, elle n'y arrivait pas, mais elle ne renonçait pas encore. Un jour, tôt ou tard, les souvenirs la submergeraient, et il lui faudrait refaire en pensée le chemin qu'il avait conduit en quelques mois du bonheur absolu au désespoir total. À ce moment-là, seule face à elle-même et au désastre qu'était devenue sa vie, elle sombrerait sans doute ou partirait à la dérive. Et après, c'était son droit, non? Oui, elle le savait. Des gens comptaient sur elle, mais elle ne réussissait pas à trouver ça vraiment important. Warren était parti et il ne reviendrait jamais. L'être qui importait le plus pour elle n'existait pas. Cela marquait la fin de bien des choses, et en particulier du souci qu'elle avait pu se faire naguère sur la marche du monde. Verna tira lentement le livre de voyage glissé dans une pochette de sa ceinture. « Pourquoi faisait-elle ça ?» se demanda-t-elle, vaguement intriguée. Eh bien, sans doute parce qu'elle n'avait plus reçu de message de la véritable dame Abbess depuis un sacré bout de temps. Anna aussi avait un lourd fardeau à porter, puisque Callan l'avait accusée de tous les crimes du monde, y compris d'être responsable du conflit en cours. Selon Verna, la mère inquisitrice se trompait, mais elle comprenait parfaitement son raisonnement. Pendant un temps, elle avait également tenu Anna pour une manipulatrice sans scrupules. En feuilletant le livre, Verna vit qu'il y avait un nouveau message. Mais elle n'eut pas le temps de s'y intéresser, car Rika rentra comme une furie dans la tente et posa un gros sac de toile sur l'impressionnante pile de documents.
« Voilà !»
cria-t-elle, visiblement furieuse. Levant les yeux, Verna remarqua pour la première fois la tenue plus qu'étrange de la mort de Sith. Stupéfiée, elle en resta bouche bée. Rika ne portait pas l'uniforme de cuir rouge qui était en somme la tenue de travail de sa corporation. De temps en temps, quand elle se détendait un peu, les morts de Sith optaient pour du cuir marron. Verna n'avait jamais vu Rika dans une autre tenue, et surtout pas une robe. Bon sang, c'était la surprise de sa vie. Et pour une robe, c'était une robe. Le genre de vêtement qu'aucune femme sensée de l'âge de Rika, le début de la trentaine, n'aurait consenti à porter. Une robe rose, avec un décolleté vertigineux qui exposait les seins de la mort de Sith, si généreux par ailleurs qu'il menaçait de déborder de toutes parts. Avec la façon dont il se soulevait chaque fois qu'elle prenait une ample inspiration, il était miraculeux que ses mamelons restent discrètement cachés.
« Vous non plus ?»
s'écria Rika. Verna réussit enfin à regarder la mort de Sith dans les yeux.
« Moi quoi ?»« Vous ne pouvez pas vous empêcher de reluquer ma poitrine ?»
Verna sentit qu'elle s'empourprait. Pour se donner une contenance, elle brandit un index accusateur sous le nez de Rika.
« Que fais-tu ainsi à attifer dans un camp militaire ? Devant tous ces soldats, tu as l'air d'une catin !»
Même si l'uniforme de cuir était boutonné jusqu'au cou, il laissait fort peu de place à l'imagination tant il était moulant. Mais voir la peau d'une mort de Sith, voilà qui était différent et tout à fait choquant. Verna remarqua enfin un second détail. La natte de Rika était défaite et ses longs cheveux blonds cascadaient librement sur ses épaules. La dame Abbess n'avait jamais vu une mort de Sith qui n'arborait pas en public ce signe extérieur bien connu de sa profession. Le décolleté tout bien pesé était moins troublant que la coiffure. Car c'était la natte, plus que tout le reste, qui conférait son identité à Rika. La voir ainsi était une sorte de sacrilège, à condition qu'on accepte de sanctifier un métier qui consistait pour l'essentiel à torturer des prisonniers. Un peu honteuse de sa façon de prendre les choses de haut, Verna se souvint qu'elle avait imploré Kara de se charger du meurtrier de Warren. Ce tueur, un gamin en réalité, avait hurlé de douleur toute la nuit. Son calvaire avait été affreux et pourtant, il n'avait pas suffi à satisfaire la veuve de Warren. De temps en temps, Verna se demandait ce que le gardien lui réservait, une fois qu'elle serait passée dans le royaume des morts. Car il lui faudrait payer ce qu'elle avait fait, c'était certain, mais elle s'en fichait. La vengeance n'avait pas de prix quand on souffrait vraiment. De plus, si elle était punie pour avoir condamné un assassin à un châtiment mérité, la notion même de justice perdrait tout son sens. Du coup, qu'un être fasse le bien ou le mal au cours de sa vie n'aurait plus la moindre importance. En réalité, Verna devrait être récompensée pour avoir ordonné la mort lente et douloureuse du déchet d'humanité qui avait tué Warren. Cet acte méritait même la plus haute récompense, une éternité de bonheur dans la lumière du Créateur en compagnie de l'esprit de Warren. Sinon, il n'y avait pas de justice, tout simplement. Le général Mayfert entra soudain sous la tente. Les poings plaqués sur les hanches, il vint se camper à côté de Rika. Apercevant Verna assise à son bureau, il passa une main dans ses cheveux blonds et se calma à vue d'œil. Le bureau était un cadeau de l'officier. Les charpentiers militaires l'avaient fabriqué avec des planches découvertes dans une ferme abandonnée. Bien entendu, ce meuble n'avait rien à voir avec ceux qu'on trouvait au Palais des Prophètes, mais il avait été conçu avec plus d'amour que tout ce que Verna avait jamais vu. Le général était fier que la dame Abbess s'en serve sans cesse et l'apprécie.
« Qu'est-ce que ça signifie ? »
demanda-t-il après avoir brièvement regardé la mort de Sith.
« Eh bien, » fit Verna, « je ne sais pas trop. Quelque chose au sujet d'une des sœurs de Jagang qui aurait surveillé un col ?»
Rika croisa ses bras nus sur son époustouflante poitrine.
« Pas une simple sœur, une sœur de l'obscurité. »
« Jagang a envoyé des magiciennes pendant tout l'hiver, » dit le jeune général. « La dame abbesse a placé des pièges et des champs de force là où il le fallait. Faut-il comprendre que des espionnes ont franchi nos lignes de défense ?»«
Non, »
lâcha Rika. « J'ai simplement dit que j'étais allé à la chasse aux magiciennes. »«
Que racontes-tu là ?»
s'étonna Verna.
« Au moins 6 Mordecides sont mortes en essayant de faire ça. » Quand tu as trouvé les têtes de 2 de tes collègues fichées sur des pics, la mère inquisitrice en personne a ordonné que tu mettes un terme à ces missions inutiles. »
Rika sourit enfin. Le genre de rictus satisfait quand il s'affichait sur le visage d'une Mordecite qui donnait immanquablement des cauchemars aux gens.
« Inutile, vraiment ? »
lança-t-elle. Plongeant la main dans le sac de toile, elle en tira une tête humaine qu'elle brandit triomphalement sous le nez de Verna. Puis elle se tourna, la montra au général et la posa sur le bureau. Des fluides innommables souillèrent les précieux rapports.
« Comme je le disais, c'est une sœur de l'obscurité. »
Malgré les stigmates de la mort, Verna reconnut ce visage. Rika ne se trompait pas, c'était bien une sœur de l'obscurité. Mais comment la Mordecite avait-elle pu le savoir ? Dehors, des chevaux passaient devant la tente de la dame abbesse. Des soldats saluaient au passage leurs camarades qui revenaient de patrouille. Dans le lointain, on entendait des échos de conversation et des voix d'hommes qui criaient des ordres. En bruit de fond, les marteaux des forgerons s'abattaient inlassablement sur des enclumes. On réparait le matériel et les armes. Non loin de là, des chevaux tournaient en rond dans un corral. Les bruits normaux d'un camp par une journée exactement semblable aux autres. Verna aimait qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. À force de s'empiler les uns sur les autres, les jours finissaient par l'écraser et elle en aurait terminé avec son chagrin. Au fond, que pouvait-elle espérer de plus ?
« Tu l'as touché avec ton agiel ? » demanda-t-elle à Rika. « Je croyais que l'arme des Mordecites n'avait aucun effet sur les personnes contrôlées par celui qui marche dans les rêves. »
Rika eut un sourire rusé, puis elle écarta les bras.
« Mon agiel ? Vous voyez un agiel quelque part ?»
Sachant qu'une Mordecite ne se séparait jamais de son arme, Verna jeta un coup d'œil au décolleté de Rika. Elle frissonna en pensant à l'endroit où devait être caché l'agiel.
« Bon, »
lâcha Meffert, visiblement à court de patience.
« Je veux savoir ce qui se passe, et plus vite que ça. » « Je patrouillais dans le col de Dobbin, et devinez sur quoi je suis tombé ? Un détachement de l'ordre impérial. »
Le général eut un sourire rageur. « Nos ennemis tentent régulièrement ce genre d'incursion dans nos lignes. Mais comment avez-vous pu croiser ce détachement ? Une de nos sœurs aurait déjà dû l'avoir piégé. »
Rika haussa les épaules.
« Eh bien, ce détachement était en fait de l'autre côté du col, près de la ferme abandonnée. »
Elle flanqua un petit coup de gros orteil au bureau.
« Là où vous avez trouvé le bois. »
Verna fit une moue agacée. Rika n'aurait pas dû s'aventurer jusque-là. Hélas, les Mordecites n'obéissaient qu'au seigneur Ral en personne. Et si elles avaient exécuté les ordres de Kalan, c'était exclusivement parce que celle-ci représentait Richard durant sa longue absence. En réalité, selon Verna, c'était encore plus simple que ça. Ces femmes avaient accepté l'autorité de la mère inquisitrice parce qu'elles ne voulaient pas s'attirer les foudres de son mari lorsqu'il reviendrait. Tant que ses instructions ne les contrariaient pas, pourquoi n'auraient-elles pas joué le jeu ? Dès que quelque chose ne leur convenait pas, elles n'en faisaient qu'à leur tête. Ça, tout le monde le savait.
« La sœur de l'obscurité se tenait à l'écart, » dit Rika, « et elle semblait avoir très mal à la tête. »
« Jagang, » souffla Verna. Il lui communiquait ses ordres, la punissait de quelques forfaits ou lui faisait des remontrances. Il s'introduit de temps en temps dans l'esprit de ses serviteurs. C'est toujours très déplaisant.
Rika caressa les cheveux de la tête posée sur le bureau.
« La pauvre chérie, » railla-t-elle. « Alors qu'elle était dans un bosquet, les yeux dans le vague et les mains pressées sur les tempes, les soldats qui l'accompagnaient prenaient du bon temps avec deux filles qui hurlaient de douleur et les imploraient d'arrêter. Mais bien entendu, ces porcs n'en avaient rien à faire. »
Verna baissa les yeux et soupira. Quelques personnes avaient refusé de s'enfuir avant l'arrivée de l'ordre impérial.
Trop souvent, lorsque des gens doutaient de l'existence du mal, ils y étaient confrontés plus brutalement encore que les autres.
« Je me suis chargé des héroïques guerriers de l'ordre, » continua Rika.
« Ils étaient trop occupés pour m'entendre arriver. »
Terrorisés, les deux femmes ont continué à crier après que je les eus sauvées, mais la sœur se moquait de leurs hurlements depuis le début. Une des femmes était blonde, comme moi, et elle faisait à peu près ma taille. Ça m'a donné une idée. J'ai défait ma natte et mis la robe de la fille. Elle a pris les vêtements d'un soldat, puis son amie et elle, sur mon conseil, ont couru vers les collines le plus loin possible de la sœur. Je n'ai pas eu besoin de leur dire deux fois de foutre le camp. Quand elles ont été loin, je me suis assis sur un banc devant l'étable. Lorsque la sœur est revenue, elle m'a vu en train de faire semblant de pleurer et elle est tombée dans le piège. « Il est temps que ces porcs en finissent avec toi et ton ami, qu'ils doivent encore besogner dans le foin » a-t-elle dit. « Son Excellence veut un rapport le plus vite possible, il est prêt à se mettre en mouvement. »
Verna se leva d'un bond.
« Elle a dit ça vraiment ?»«
Oui. »«
Et après ?» demanda le général.
La sœur s'est dirigée vers la porte de l'étable. Quand elle est passée devant moi, je lui ai sauté dessus et je lui ai tranché la gorge avec le couteau volé à un soldat.
« Tranché la gorge ?» répéta Meffert. « Tu n'as pas utilisé ton agiel ?»
Rika le regarda comme s'il était un écolier qui n'avait pas bien écouté la leçon.
« Comme l'a dit la dame abbesse, nos armes ne font aucun effet aux marionnettes de Jagang. J'ai donc utilisé une lame. Empereur ou pas, lui couper la gorge a très bien marché. »
Rika leva de nouveau la tête de sa victime. Un rapport souillé de fluide y resta collé, produisant un effet comique des plus incongrus.
« Je lui ai d'abord ouvert la gorge, puis j'ai coupé la moelle épinière entre deux vertèbres pour la décapiter. Comme elle se débattait, j'ai dû la tenir fermement et j'ai senti le moment où elle mourrait. Pendant une fraction de seconde, le monde est devenu plus noir que le cœur du gardien, comme si le royaume des morts s'était emparé de l'univers tout entier. »
Verna détourna les yeux de la sœur qu'elle avait connue pendant des années, la prenant pour une fervente adoratrice du Créateur. En réalité, cette folle adorait la mort et le néant.
« Le gardien est venu prendre possession de ce qui lui appartenait, » expliqua Verna à Rika.
« Et voilà !»
triompha la mort de Sith.
« Je savais bien que la mort d'une sœur de la lumière ne se passait pas comme ça. C'est donc bien une sœur de l'obscurité. J'avais raison depuis le début. »«
C'est exact, » soupira Verna.
Mais Furt flanqua une tape amicale entre les omoplates de la mort de Sith.
« Bien joué, Rika. Je devrais aller voir mes officiers. Si Jagang se met en mouvement, il ne lui faudra que quelques jours pour arriver ici. Nous devons nous assurer que l'école seront prêts lorsque ses forces arriveront. »
« L'école tiendront, » dit Verna. « Enfin, pendant un temps. »
L'ordre devait traverser les montagnes pour envahir Dara, et il existait fort peu de cols. Verna et les sœurs les avaient condamnés du mieux qu'elles pouvaient. Des champs de force en défendaient l'entrée, et des amas de pierres, des éboulis réalisés avec l'aide de la magie, bloquaient physiquement le passage. Toujours grâce à la magie, les sœurs avaient également dévasté les sentiers et les pistes qui couraient à flanc de montagne. Au cas où l'ennemi passerait quand même, les soldats avaient travaillé tout l'hiver pour construire des murailles défensives au milieu de tous les cols. Du haut de ces ouvrages, les défenseurs cribleraient leurs adversaires de flèches. Afin de ne rien laisser au hasard, les sœurs avaient placé des pièges magiques devant toutes ces murailles. Suivant les ordres de Jagang, des sœurs de l'obscurité avaient tenté de détruire les barrières magiques et naturelles. Mais la dame abbesse était bien plus puissante qu'elle, en tout cas lorsqu'il s'agissait de magie additive. De plus, elle avait uni ses forces à celles des autres sœurs pour que l'essor défensif soit d'une résistance à toute épreuve. Malgré tout ça, Jagang passerait. Rien de ce que pouvaient faire Verna, ses sœurs ou l'armée d'Aran n'empêcherait que le nombre finisse par prévaloir. Si des dizaines de milliers d'hommes devaient tomber dans l'école, eh bien l'empereur les sacrifierait sans sourciller, et des centaines de milliers ne l'auraient pas dérangé davantage.
Verna, je reviendrai dans un moment, dit le général. « Nous devons organiser une réunion entre mes officiers et vos sœurs pour harmoniser nos actions défensives. »
« Une réunion, oui, bien sûr. »
Le général et la mort de Sid se tournèrent vers la sortie de la tente.
« Rika !»
appela Verna. Elle désigna le bureau.
« Tu veux bien emporter ton trophée ?»
La mort de Sid soupira, au risque de faire jaillir ses seins hors de la robe, afficha une expression résignée et s'empara de la tête, puis elle sortit avec le général. Verna s'assit, accablée. Tout allait recommencer. Après un hiver glacial mais paisible, la boucherie reprenait ses droits. Jagang ayant établi son camp de l'autre côté des montagnes, la neige et le froid l'avaient empêché de nuire gravement à ses adversaires. À présent, comme durant l'été où Aren avait péri, le climat redevenait favorable et la guerre allait pouvoir faire rage. La peur, les combats, la faim, la fatigue, la mort. Mais quel choix s'offrait aux défenseurs, à part accepter de se faire massacrer? L'ennui, c'était que la vie, ces derniers temps, était plus pénible à supporter que la mort. Verna se souvint soudain du livre de voyage. Le tirant de la pochette de sa ceinture, elle approcha la lampe pour mieux voir. Avant de lire, elle se demanda où étaient Richard et Callan. Allait-il bien? Ezed et Adi, les derniers défenseurs de la forteresse du sorcier? Eux, au moins, ils étaient en sécurité. Pour l'instant, en tout cas. Quand Dara serait tombée, Jagang retournerait en Aydindril et les choses se gâteraient pour eux. Verna posa le petit livre noir sur le bureau et passa un index sur la couverture en cuir de cet artefact vieux de plus de 3000 ans. Les livres de voyage étaient une invention des mystérieux sorciers qui avaient construit le palais des prophètes. Chaque carnet avait son jumeau, et ce qu'on écrivait dans l'un apparaissait dans l'autre. Les sœurs de la lumière pouvaient ainsi communiquer même lorsque d'extraordinaires distances les séparaient. Anna, la vraie dame abbesse, détenait le livre frère de celui de Verna. 20 ans durant, Verna avait sillonné le Nouveau Monde pour trouver Richard, et Anna savait depuis le début où il était. Une bonne raison de comprendre la rage de Callan au sujet des manipulations d'Anna. Mais Verna avait fini par saisir que la dame abbesse lui avait confié une mission de la première importance, même si elle ne lui avait pas vraiment tout dit, et elle l'avait choisie parce qu'elle lui faisait confiance. Verna ouvrit le livre et lut le nouveau message. « Verna, je crois avoir découvert où se cache le prophète. » La dame abbesse par intérim en sursauta de surprise. Après la destruction du palais, Nathan avait filé sans demander son reste. Qu'un tel homme soit en liberté glaçait les sangs. Pendant près de 2 ans, les sœurs de la lumière avaient cru qu'Anna et Nathan étaient morts. Une mise en scène organisée par l'authentique dame abbesse partie en mission avec le prophète, et c'était également elle qui avait choisi Verna pour lui succéder. À part Verna, Zed, Richard et Callan, très peu de personnes savaient la vérité. Heureusement, car l'évasion de Nathan était une catastrophe, qui pouvait dire quel désastre il provoquerait? Verna continua sa lecture. Je devrais le capturer d'ici à quelques jours si tout va bien. J'ai du mal à le croire, mais cette longue traque est enfin terminée. Bien entendu, je te tiendrai au courant. Et toi, comment vas-tu? Comment se portent les sœurs et que fait notre armée? Réponds-moi aussi vite que possible. Je regarderai chaque soir mon livre de voyage. Tu me manques terriblement, sache-le. Verna releva les yeux. Il n'y avait rien de plus, mais ça suffisait. L'idée qu'Anna mette enfin la main sur Nathan était un tel soulagement. Pourtant, cette grande nouvelle ne remonta pas le moral de Verna. Jagang lancerait bientôt son attaque et Richard était toujours perdu quelque part dans le sud. Anna avait œuvré pendant 500 ans pour que le sourcier dirige les forces du Nouveau Monde lors de la bataille qui déciderait du sort de l'humanité. On était à la veille du dernier acte de ce conflit. Et Richard manquait à l'appel. Verna tira la plume spéciale glissée dans la couverture du livre et commença d'écrire. « Très chère Anna, j'ai peur que les choses ici soient en train de très mal tourner. Le siège des cols qui défendent Dara commencera bientôt.